les médias francophones publics.
Radio France, RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone à la radio. La version télé de l'émission arrive sur votre chaîne de télévision francophone. Aujourd'hui à la radio donc, nous irons en Suisse, aux USA, au Québec, à Mayotte et dans les coulisses d'un grand artiste. C'est un roman fleuve, une saga qui raconte notre siècle, l'un des livres les plus ambitieux de cette saison est signé Jean-François Haas. L'auteur suisse devient ainsi l'un des plus grands écrivains helvétiques, explorant la condition humaine à la manière de Dostoïevski. Bonjour Jean-François Haas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Votre nouveau roman, Tu écriras mon nom sur les eaux, raconte la vie d'un homme avec ses proches sur un siècle. Et il y a un mot qui revient souvent entre deux amis pour la vie qui travaillent ensemble. C'est le mot « frère ». Il brandit ce mot comme un étendard, comme une résistance.
Oui, pour moi, c'est le cas dès l'épisode du cuirassé Potemkin que j'évoque aussi.
Oui, oui.
Cette scène dans le film d'Eisenstein où un marin arrête les soldats qui vont fusiller les autres marins en criant « frère ».
Voilà. Et c'est ce qu'ils vont faire toute leur vie, ces deux-là aussi.
Voilà, tout à fait.
Vous serez surpris et sans doute ému par la belle histoire racontée par Jean-François Haas. Et il y a un autre symbole fort dont nous parlerons qui nous donne aussi des idées pour témoigner notre amour à nos proches. Le 2 mars 1991, il y a donc pile 28 ans, disparaissait Serge Gainsbourg. Le grand photographe Pierre Terrasson est avec nous à l'occasion de la parution d'un livre qui oppose Gainsbourg à Gainsbar. Nous irons aussi à Mayotte avec le tout nouveau roman flamboyant de l'écrivain camerounais Eugène Ebaudet, et puis cap sur Montréal pour assister à une signature avec Denise Bombardier et ses lecteurs.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous. Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Suisse dans la librairie Une Petite Prose à Boudry. Tout va bien pour vous Dominique?
Tout va bien.
Parfait. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes notre libraire belge, officiant à Bruxelles.
Tout à fait.
Dans la librairie.
La licorne.
On vous retrouvera d'ailleurs toutes les deux aux côtés de Jérémy Lagniel dans la version télé de la librairie francophone que j'évoquais tout à l'heure, dès ce week-end sur les chaînes de télévision publique en Suisse sur la 2, en Belgique sur la 3, au Canada sur ICR TV et aussi partout dans le monde avec une diffusion sur TV5 Monde. Au sommaire du premier numéro, Dany Laferrière, Yvan Jablonka, Anne Goscinny, Jean Van Hamme, Titouan Lamazou, l'artiste Blik Bassi et le groupe tahitien Veiteani. Vous serez 10 millions à nous regarder partout dans le monde. J'espère que vous en ferez partie. Deux autres libraires vont regarder aussi. Ils sont avec nous. En France, on retrouve Sophie Todescato. Bonjour Sophie.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Orléans dans la librairie Les Temps Modernes.
C'est ça.
Devant donc TV5 Monde pour vous, hein, pour
mais
la France.
Évidemment.
Enfin au Canada, c'est Josiane Nétourneau cette semaine. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Vous regarderez l'émission sur ICR TV.
Ben oui, c'est sûr.
Et vous êtes libraire dans la librairie du Square à Montréal. Merci d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Pierre Terrasson.
Bonjour.
Nous parlerons de Serge Gainsbourg avec vous tout à l'heure. On commence toujours cette émission avec une anecdote personnelle racontée par l'un de nos invités. Ça tombe sur vous, Pierre, et vous évoquez Serge, je suppose.
Affirmatif, hein. Je vais essayer d'en raconter une que je n'ai pas trop racontée.
Allez-y.
Je pense que Serge, c'était surtout quelqu'un de très très généreux, quoi. Donc en fait, c'est une séance en studio dans les années 80, enfin fin 80, où Serge, tout d'un coup, s'est aperçu qu'un de mes assistants lui manquait deux dents, quoi. Ça l'a frappé, quoi. Donc, il a arrêté la séance photo et il lui a demandé, mais dis donc, tu peux pas rester comme ça. Et le gamin lui a dit, écoute, moi, Serge, j'ai pas d'argent, quoi. Donc, Serge lui a demandé, mais qu'est-ce que ça coûte, une dent, deux dents? Le gamin, il lui a dit, écoute, ça vaut une plaque à l'époque,
en 10 000.
Fait, 10 000 francs français anciens, quoi. Mm-hmm. Serge s'est fait apporter son attaché case. Il avait un attaché case avec des petits codes dorés et puis il lui a fait un chèque d'une plaque, quoi.
Ah oui, voilà. Et il y a la photo surtout dans le livre d'ailleurs.
Oui.
Parce que vous racontez cette histoire dans le livre, il a pris en photo le chèque.
Il y a une reproduction effectivement du chèque, quoi. Il y a une reproduction du chèque parce que le gamin, il avait pas envie de déposer ce chèque qui valait plus cher que la valeur.
Oui. C'est sûr.
Surtout maintenant.
Oui, surtout maintenant. Merci pour cette histoire. Pierre Terrasson est dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Eugène Ebaudet.
Bonjour.
On part à Mayotte avec vous et avec votre nouveau roman, Le Balcon de Dieu, paru chez Gallimard. Ce n'est pas un roman touristique, mais un roman politique. Vous dénoncez frontalement, à travers vos personnages, la situation sociale de Mayotte, délaissée par l'État français. On va y revenir. Racontons d'abord cette histoire avec ce couple sud-africain blanc qui part en voyage de noces sur l'île Maurice à l'origine.
Exact. Et puis, y a un cyclone qui bouleverse les plans initialement prévus et l'avion est obligé d'atterrir
en urgence
à Mayotte.
Alors vous décrivez comme ça une scène de panique à bord qui va vacciner de prendre l'avion le moindre phobique modéré, hein, parce que c'est absolument terrible dans ce Boeing ce qui se passe. Et là, Melania et Donovan vont découvrir la beauté de l'île et la richesse culturelle. Ensuite, ils vont rentrer en Afrique du Sud, plein de souvenirs. Ce couple se sentira investi d'une mission parce que leur fille naît le jour de la mort de Mandela.
Exact. Et à partir de là, il y a une espèce de transfert, non pas des cendres de Nelson, mais de ce qu'il a laissé comme héritage, et notamment l'envie que l'éducation soit au centre des affaires, des affaires du monde, et surtout pouvoir arracher les populations qui sont un peu à l'ombre. Donc Donovan décide d'aller enseigner à Mayotte.
Alors ils vont habiter dans un endroit qui se nomme le Balcon de Dieu, une résidence avec une vue imprenable sur la mer. Vous racontez l'histoire hein, du Balcon de Dieu avec Dieu qui décide un jour d'être comme ça.
Il y a une légende,
voilà,
qui court,
de dominer comme ça la baie. Alors bon, on va pas tout raconter, mais tout autour de cette résidence, il y a des habitations de fortune nommées Banga. Elles se construisent, ces habitations. Et qu'est-ce que c'est que le Banga à l'origine, Eugène Ebaudet ?
À l'origine, le Banga est une case initiatique qui permet à un jeune homme de pouvoir échapper à l'emprise familiale et de commencer un peu à découvrir l'existence par lui-même. Donc c'est une petite case de fortune. Ça, c'est à l'origine. Mais depuis l'émigration, depuis la surpopulation de l'île, les Bangas sont devenus quasiment des modèles urbains pour décerveler au fond les personnes qui y vivent et surtout créer des bidonvilles autour des quartiers, disons, réservés pour les fonctionnaires, pour la nouvelle classe moyenne supérieure.
Alors ça, c'est le premier choc social pour ce couple sud-africain. Ce premier choc social qui est là, tout près d'eux. On va lire un extrait de votre roman pour se mettre dans l'ambiance, Eugène, c'est une surprise, sur la musique mahoraise reggae de Babadi. C'est Jean-François Haas qui a accepté de lire cet extrait. On va envoyer la musique et je vais vous faire un signe, Jean-François, pour lire l'extrait de Eugène Ebaudet.
Progressivement, des habitations provisoires, la plupart en tôle, qu'on nommait ici Banga, ceinturèrent le balcon de Dieu et grignotèrent la forêt. Au fur et à mesure de la densification urbaine de Kungu, ces constructions précaires ne furent plus qu'un amoncellement de taudis aux fondations peu sûres, construites sur des terrains mouvants, qui s'effondraient sur elles-mêmes ou étaient emportées lors de glissements de terrain, que favorisaient les précipitations torrentueuses. Elles versaient dans les ravins. Comme les lotissements modernes attiraient les pauvres, très vite des populations en quête de petits boulots bâtissaient nuitamment, autour de ces lotissements, des taudis, avec le concours des réseaux d'entraide communautaire. Ces bangas étaient au fil du temps devenus des dortoirs immondes.
Au secours citoyen, effectivement, c'est ça. C'est ça votre livre, Eugène Ebaudet. Cet extrait lu par Jean-François Haas. Merci beaucoup Jean-François, très belle lecture.
Oui, merci.
Et il se passe des drames, effectivement, dans ces taudis, avec un glissement de terrain qui va tuer femmes et enfants.
Oui, et merci Jean-François. Et puis, à côté de ces taudis immondes, il y a des immondices. Et il y a surtout une désertion de l'État, vous l'avez dit, une désertion des pouvoirs publics. Et lorsqu'arrive la catastrophe, eh bien, tout le monde se défile. et les services sociaux n'existent plus. Au fond, tous ceux qui peuvent intervenir et sauver, ceux qui peuvent encore l'être, ne sont plus là. Et c'est pour cela, je crois que j'ai aussi écrit ce livre, parce que le roman est pour moi le lieu où à la fois on peut mettre toutes les pensées, mais également le lieu de tous les pansements.
On va revenir sur le désengagement de l'État dans un instant, juste après les trois libraires qui ont lu votre roman, Eugène Baudet, avec la Suisse notamment, et Dominique Bressoux qui veut intervenir. Dominique.
Alors moi, je dois avouer qu'avant de lire ce livre, le 101e département français m'était parfaitement inconnu. Et pourtant, en peu de pages, j'ai l'impression de connaître cette île sur le bout des doigts, ainsi que de saisir des enjeux politiques extrêmement complexes. En fait, pour moi, c'est un appel au pouvoir, au pluriel, d'assumer leurs responsabilités, et c'est un j'accuse style 21e siècle très convaincant.
Sophie Todescato, en France, comment s'est passée votre lecture ?
Ah, moi, ça m'a beaucoup intéressée. Il y a deux aspects dans le livre. Il y a le lieu, Mayotte, qui est écrit de manière quasi sociologique, documentaire, et puis il y a aussi un zoom sur les personnages dont le roman fait une sorte d'étude psychologique et morale qui a beaucoup de profondeur. C'est donc un peu le livre d'un entomologiste qui précipiterait ses créatures dans un milieu hostile pour décrire comment elles se débattent.
Josiane Letourneau, au Canada, êtes-vous d'accord avec vos collègues ?
Ben, moi, je suis un peu partagée. En fait, je dois avouer que oui, la lecture du roman m'a amenée à vouloir en apprendre davantage sur la vie des habitants de ce département, que la situation politique et sociale de l'archipel de Mayotte m'a énormément touchée, mais je me suis sentie un peu comme le jeune couple au début de l'histoire, embarqué dans un voyage de noces idyllique, mais secoué un peu par les turbulences. J'ai dû m'accrocher parfois, inexplicablement, à ma lecture. Quelque chose dans le rythme et dans l'écriture m'ont donné un peu de fil à retordre, malgré la profondeur du propos.
Et c'est vrai qu'il y a des turbulences, Eugène Baudet, dans ce livre, des turbulences politiques. Et vous racontez toute la politique, parce que vous avez vécu à Mayotte vous-même pendant 2 ans. Le problème de la France vis-à-vis de Mayotte, c'est la culture et la religion. Vous expliquez que la population est musulmane à 98%. Et comme l'État français délaisse ce département d'outre-mer, des imams s'installent dans la société, des mosquées s'érigent, et les prêches deviennent politiques. Et par-dessus tout, en plus, selon vous, en tout cas ce que vous écrivez, le président Macron serait favorable à un rapprochement avec les Comores.
Eh bien, il y a eu une feuille de route qui a mis le feu aux poudres, le signal de toutes les turbulences dont nous parlons ici. Et cette feuille de route était une négociation souterraine, je dirais sous-marine, entre le gouvernement français et le gouvernement comorien. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette feuille de route ? La révision du visa Balladur, donc qui permettait aux Comoriens, pour accéder à Mayotte, d'avoir un visa. Or, il était question de le supprimer, ce qui a donc mis le feu aux poudres, parce qu'il faut savoir que Mayotte est le plus jeune département de France, vous l'avez dit, mais c'est aussi le département où il y a le plus de jeunes, mais également celui qui est le plus densément peuplé en dehors de l'île de France, plus de 690 habitants au kilomètre carré. Les aspects sanitaires sont catastrophiques,
et les Comoriens arrivent, c'est ça.
Et du coup, quand on veut rajouter en plus de la population, si on enlève le visa, alors ça a créé une tension telle que le gouvernement français a été sommé de pouvoir s'expliquer sur la feuille de route.
Alors justement, il y a le député mahorais Mansour Kamardine qui a milité, lui, pour l'obtention du statut de département français en 2011, qui, en avril 2018, a interpellé le Premier ministre français à l'Assemblée nationale. On a retrouvé ce moment, écoutez.
Monsieur le Premier ministre, vous qui aimez, qui êtes amoureux de l'histoire, vous savez que Mayotte est cédée à la France sous Louis-Philippe. Faites en sorte qu'elle ne soit pas cédée sous Édouard Philippe.
Voilà, tout est dit. Et les immigrés comoriens qui arrivent clandestinement à Mayotte font aussi les affaires de certains politiques des Comores, qui pensent que Mayotte sera tôt ou tard à eux, car la population comorienne va grandir. Ils se disent un jour, la France va lâcher Mayotte. Et c'est une forme de colonisation ?
Les politiques, les politiciens des Comores espèrent que la population va être suffisamment nombreuse pour que le contentieux historique qui existe autour de la souveraineté française à Mayotte, qui est né en 74 après le référendum, qui a été interprété d'une manière assez curieuse, eh bien, les Comoriens estiment que tôt ou tard, Mayotte sera comorienne, c'est-à-dire africaine, c'est-à-dire sous extrait de la domination française.
Voilà, et peut-être que l'Afrique du Sud peut jouer un rôle. En tout cas, votre personnage interpelle le président sud-africain. Ça, c'est dans le roman. Il y a plein de choses à découvrir dans votre livre. Merci beaucoup, Eugène Baudet. Merci infiniment. Le Balcon de Dieu est paru aux éditions Gallimard dans la collection Continent Noir. Vous restez avec nous, Eugène.
Merci.
À suivre, le grand photographe Pierre Terrasson, spécialiste de la scène musicale internationale. Vous entendrez aussi notre reportage à Montréal avec les lecteurs de Denise Bombardier que nous avons suivi lors d'une signature et sa décoiffe. Avant cela, voici le tout nouveau titre d'Émilie Loiseau dans la librairie francophone.
Avez-vous mesuré le temps? Avez-vous mesuré le vent? Avez-vous mesuré la nuit, la vie? Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour
Émilie Loiseau, avec son nouveau titre « Viens avec moi, mon vieux pays » sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Pierre Terrasson est avec nous pour son livre Gainsbourg, Gainsbar, paru chez Hugo Images le 2 mars 1991. Gainsbourg mourait chez lui, rue de Verneuil à Paris, il y a tout juste 28 ans et pourtant il est encore là par sa musique, par son influence. Alors vous avez opposé Gainsbourg à Gainsbar, Pierre, dans ce livre. Vous avez rencontré Serge Gainsbourg au moment où il est en plein dans son rôle de Gainsbar, provoquant et imprévisible. Quelle relation avez-vous noué avec lui ?
Je l'ai principalement rencontré en 84. Il était encore entre deux chaises à ce moment-là, quoi.
Ouais.
Je l'ai photographié pour Best à ce moment-là, mais il est parti surtout en vrille en 88, enfin, sur la fin des années 80, quoi. Il est lentement parti vers un personnage provocateur, provoquant, avec des frasques, des fois, qui n'étaient pas du meilleur goût, quoi.
Des frasques avec vous ou pas?
Pas avec moi, hein, ça s'est toujours très très bien passé avec moi. On parlait peinture.
Photographie aussi.
Photographie, parce qu'il était photographe, mais était peintre aussi. Moi,
on oublie que c'était un bon photographe. Bon,
voilà. Oui, c'est un bon photographe. Ouais. Il a fait Bambou et les poupées, avec des portraits de Bambou, quoi.
Alors, il y a en préface Brigitte Bardot qui s'exprime et qui décrit parfaitement bien le personnage, capable du meilleur comme du pire, envers lui-même, mais aussi envers les autres. Vous avez aussi constaté, vous, ces excès mêlés à la générosité permanente?
Ben, les excès, je les ai... Oui, enfin, c'était des excès de générosité. Je me rappelle de moments, par exemple, au Raphaël, où on dînait avec les gens avec qui je travaillais à ce moment-là pour Parole et Musique. Il était tard et Serge a acheté tous les bouquets de fleurs de toutes les tables, quoi. Et nous les a offerts, quoi. Enfin, c'était quelque chose comme ça, de très extrême. Puis après, il partait en vrille. Je veux dire, il allait écouter You Under Arrest dans le commissariat du coin, quoi.
Enfin,
les premiers qui ont écouté You Under Arrest, c'est les Poulagas, quoi.
C'est la police.
Voilà.
Les Poulagas, vous les appelez, vous?
Oui, bah là, ça m'est venu comme ça.
D'accord, oui, bon, pourquoi pas. Pierre Terrasson, ce livre raconte Gainsbourg. Alors, on sait déjà beaucoup de choses sur lui. Ce qui est le plus intéressant, Pierre, ce sont vos photos. On va jouer, si vous voulez bien, à en décrire certaines et à les contextualiser grâce à vos souvenirs et le tout en musique. Commençons par la fin du livre, où vous publiez plein de photos de la rue de Verneuil. Ouais. Chez lui, c'était comment, chez Gainsbourg?
C'était lourd, quoi. Enfin, moi, c'était une commande, entre guillemets, de Bambou, hein. Je veux dire, Bambou, on n'a pas forcé la porte, quoi. Elle nous a demandé de faire des photos. Donc, j'ai passé une journée avec mon assistant, tous les deux, à l'intérieur de la maison de Serge, que je connaissais, parce que je l'avais déjà. Il m'avait déjà joué du Chopin pour moi tout seul, quoi. Donc, c'était quand même des moments énormes, quoi. Et quand on est sortis, on était complètement déphasés, quoi. Voilà. Et c'était quand même un peu traumatisant, quoi.
Alors, on va remonter le temps. En 1983, il y a une autre photo, celle du succès de l'album de Jane Birkin avec Baby Alone in Babylon.
Baby Alone in Babylon, noyé sous les flots de musique électrique, de rock'n'roll, tu recherches un rôle, tu recherches les studios et les traces.
On les voit tous les deux dans les locaux de la maison de disques Phonogramme. Ils ont l'air heureux, vraiment.
Bah oui, c'est un disque d'or, ils étaient contents. Oui, ils étaient. Mais ça, c'est un photocall. Hein. Je veux dire, il y avait tous les photographes d'agence peu de Paris à ce moment-là pour immortaliser ce moment, quoi.
Viens là.
Alors dans ce livre, Pierre Terrasson...
C'est une autre histoire, ça.
Voilà, une autre histoire. Il y a plusieurs photos sur le tournage du clip d'Indochine, Tes yeux noirs. Et ça s'est pas très bien passé.
Ça
vous éclate, pourquoi?
Ça m'éclate parce que c'est un clip culte, quoi.
Ouais.
Je veux dire, culte, maintenant, Sirkis, il va dire que c'est génial, mais à l'époque, c'était un clip qu'il aimait pas du tout.
Oui, c'est vrai, et puis il est pas génial, ce clip.
Oui, c'était les moyens aussi, c'est tourné en 35, enfin, c'est un truc de dingue.
Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le clip? Sur le tournage.
Je sais pas. Bon,
si vous savez, Serge, vous le dites.
Non. Enfin, j'étais pas tout le temps là. Mais je veux dire, mais Serge, il devait être quand même assez. Bon, il était au Plastis toute la journée. Quoi.
Ouais,
donc
c'est ça.
Des fois, ça pouvait être. Eux, c'était des petits gars, quoi. Il leur parlait, petits gars. Alors, il leur regardait un peu bizarrement parce que c'était des petites stars, quoi.
Ouais.
Voilà. Quoi.
Alors, ça se passe pas très bien parce qu'il explose le budget, Serge Gainsbourg. Il le triple, il le quadruple. Sauf qu'Indochine sait que s'il dépasse le budget du clip, ça va retomber sur eux parce qu'on va leur retirer des royalties.
Ah oui, moi je la connais pas, cette histoire.
Ah bah oui, c'est ça l'histoire. Vous avez pris une photo magnifique de Serge Gainsbourg et Charlotte sur le tournage du clip en 1986, donc, qui vient voir son père. Charlotte, elle vient voir son père, la photo est sublime.
C'est la dernière fois où je l'ai vue, Charlotte, c'est la seule fois où je l'ai rencontrée. Ben, moi, j'étais surtout proche de Bambou, quoi. Enfin, je veux dire, c'était plutôt mes aînés, quoi.
Ouais.
Donc, mais effectivement, elle est passée là avec une copine, elle a fait des photos, elle était habillée comme sa mère, enfin bon, c'était marrant.
Alors, c'est juste après la sortie de Lemon Incest, qui figure sur l'un des albums les plus sulfureux de Gainsbourg. Love on the Beat, avec le titre Entre Charlotte et Serge.
Je t'aime, t'aime, je t'aime plus que tout. Je
Comment le voyez-vous vivre, le scandale généré par ce titre qui est très pudique, en fait, très prude, malgré les apparences?
Moi, je me suis aperçu de rien.
Ah, de rien?
Non, de rien. Non, affirmatif. Non, je ne me suis pas aperçu de ça. J'étais assez loin je vais pas dire du showbiz, mais enfin c'est vrai que j'étais quelqu'un de très décalé, et puis je travaillais avec énormément de monde à l'époque, hein, mm-hmm. aussi bien Jagger que Bachoum, quoi. Donc voilà, j'ai eu des blancs, quoi.
Ouais, vous avez eu des blancs. Ouais. Vous dites affirmatif tout le temps.
Ben, c'est comme ça, pour reprendre un peu, oui, bon, ça fait une petite animation.
Ouais. Ça tombe bien parce que sur ce même album, Love on the Beat, il y a ça.
Si j'ai quoi? Affirmatif. Et quoi d'autre? Si je baise, affirmatif. Quoi, le nom? Des salopes, affirmatif.
Eh oui. Bon, il y a deux libraires qui ont lu votre livre, Pierre Terrasson. Cap sur la Belgique avec Déborah Damblon, amatrice de Gainsbourg.
Eh oui. Et d'ailleurs, je pense que tout l'intérêt de votre approche, eh bien, ça réside dans cette façon de mettre en avant la multiplicité de l'homme, la multiplicité de l'artiste. Et comme ça, on se rend encore plus compte que rien n'est simple, et avec Gainsbourg, eh ben, moins qu'avec quiconque. Ceci étant dit, et ne le prenez pas personnellement parce que c'est pas propre à votre livre, mais je me demande souvent s'il est indispensable de décortiquer comme ça la vie d'un artiste pour aimer vraiment et profiter de son œuvre.
Ah oui, mais bon.
Alors moi, j'ai toujours décortiqué des images. Du reste, faudrait quand même clarifier les choses dans la mesure où j'ai pas écrit ce bouquin, où c'est Alain Vaudrasca qui a écrit,
qui a collaboré avec
biographe, etc. Moi, je m'en suis des
Ouais, vous êtes juste photographe, quoi, c'est ça. Voilà, mais bien sûr.
A priori, je sais pas parler, je suis totalement
embête. Mais bon, photos, les photos, elles font parler, elles parlent aussi.
Bah, c'est bien d'en parler, ça.
Bah oui. Sophie Todescato.
Oui,
vous n'êtes pas très touché par ce livre, il paraît.
Alors, n'exagérons rien. Non, je trouve que c'est un album de fans pour les fans, mais je trouve aussi que la période Gainsbourg n'est pas la période la plus gracieuse de toute la carrière.
Ah bah oui.
Donc, le texte et les photos décrivent bien les étapes de la construction de ce qui est le dernier personnage, le dernier avatar. Je trouve aussi que, quand on feuillette le livre, les années 80, l'esthétique des années 80, ça a pris un peu de plomb dans l'aile, quoi. On a pris un coup de vieux, en fait. C'est peut-être
Vous trouvez, vous. Ouais. Pierre, vous avez pris un coup de vieux?
Ouais, de toute façon, oui. Non, mais peut-être pour la couleur ou la mise en scène, ou les choix des fonds photos à l'époque en studio, c'est pas faux.
C'est
quoi.
Toute une époque.
Voilà. Il y a cet
par
album.
Contre, le noir et blanc, tout ce qui est Polaroid, noir et blanc, par exemple, ça traverse les âges.
Alors, justement, moins, quoi. Avec Your Under West, ce dernier album de Gainsbourg, vous signez les photographies, vous irez dans un commissariat pour la séance photo dédiée à l'album, et vous racontez dans le livre l'arrivée au commissariat. Vous arrivez comme ça dans le commissariat?
Bah, il m'avait bouclé un an avant pour garder vue déjà. Enfin, je devrais peut-être pas le dire, mais.
Ah oui! Le même?
Non, mais c'est dans le bouquin, de toute façon. Oui, le même.
Le même commissariat.
Oui, parce que bon, j'étais quelqu'un d'un peu nerveux quand j'étais plus petit, quoi.
Et alors, donc, maintenant, du coup, vous arrivez avec Serge Gainsbourg?
Voilà, un an après.
Par une connaissance?
Ben, c'était le maire d'Aubervilliers, Jacques Ralit, à l'époque, hein, qui est décédé il y a très peu de temps, qui m'avait arrangé le coup, parce que c'est pas simple de faire des photos dans un commissariat. Donc, c'est un commissariat à l'ancienne, traditionnel. Donc il y avait la Marianne qui est Catherine Deneuve, quoi. Et Serge, il était très très inquiet pour la Marianne, à savoir si j'allais bien l'éclairer. Il disait ouais, mais il faut vraiment que tu l'éclaires parce que c'est important, la Marianne, tu vois. J'ai dit oui, Serge. Il commençait à me fatiguer un peu. J'ai dit bon, j'ai mis l'appareil photo sur un pied, quoi. Donc il a regardé le cadre par lui-même.
Ouais, ça l'a rassuré.
Il a vu qu'on voyait bien la Marianne. On a dû faire un Polaroid ou deux à l'époque, quoi. Et elle était même suréclairée, cette Marianne, quoi. C'était presque trop.
En ville, je me tire à Delta Ville avec mon
Smashbox.
J'ouvre la tachycaise et j'oublierai des 13 ans dans mon
Smashbox.
C'est un album très critiqué, Pierre Terrasson, cet album Your Under West, qui est le dernier album de Gainsbourg.
Oui, je sais pas pourquoi, du reste.
Vous l'avez aimé, cet album-là, vous?
Oui, évidemment. Ouais. Je suis resté plus sur Melody Nelson, des albums concept de l'époque des années 70, quoi, qui pour moi est un disque de rock comme Deep Purple ou d'autres choses, enfin des albums à histoire. Quoi.
Mais malgré les critiques, on entend avec ce titre Dispatchbox qu'il a pas trop vieilli, en fait. Le son est bon.
Oui, les arrangements, la basse, c'est
incroyable,
énorme, quoi. Ouais, évidemment. Ouais.
Alors, il n'y a pas de photo avec Vanessa Paradis pour qu'il signe l'album variations sur le même thème un an avant sa mort, mais le livre explique l'enregistrement de l'album de Vanessa. Elle a 17 ans et refuse des chansons. Alors Gainsbourg se met à pleurer, dit que c'est la première fois qu'on lui jette des chansons à la gueule. Et puis un jour au Canada, il confiera au Journal de Montréal « Paradis, c'est l'enfer. Elle fait chier, ils m'ont fait boire, j'ai dû aller en désintox à cause d'eux. Jamais je n'ai eu autant de problèmes à faire un disque qu'avec cette bande de cons qui voulait tout contrôler. »
Mais qui dit quoi à qui?
Ça, c'est Gainsbourg qui dit ça.
En parlant de Vanessa,
quoi. Ouais, au Journal de Montréal.
Ah, je sais pas. Moi, j'ai fait un bouquin, mais je devrais pas en parler, mais qui est épuisé
du reste. On peut parler de tout, allez-y.
Ah oui, d'accord. Bah, sur Vanessa, j'ai fait un bouquin introuvable, quoi. Et moi, je fais beaucoup de collecteurs. Hein. J'espère que celui-là ne sera pas trop, comme ça, il va être.
Et vous avez jamais parlé de Vanessa?
Non, pas du tout.
Ou elle, de lui?
Moi, ma période Vanessa, c'est avant lui.
Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, donc. Bon, merci beaucoup, Pierre. Gainsbourg, Gainsbar, réalisé avec Alain Vaudraska et paru aux éditions Hugo Images. Merci.
Merci à vous.
Et hop, la chronique des libraires avec les coups de gueule et les coups de cœur. Déborah Damblon pour la Belgique, un coup de gueule dans le rayon des livres pour la jeunesse.
Bah oui, il y a des jours comme ça, Emmanuel. Alors je ne sais pas si vous fréquentez les rayons jeunesse des librairies, ceux des tout-petits en particulier, mais si vous le faites, vous avez sûrement remarqué que les éditeurs, la plupart des éditeurs, pas tous évidemment, se sentent obligés d'ajouter des machins, des rabats, des pop-up, des puces sonores, des paillettes, du relief, qu'est-ce que je sais encore, pour attirer l'attention des enfants. Alors je sais bien qu'on vit dans une époque de surenchère, mais quand même, hein, tout ça, ça se fait souvent aux dépens d'une vraie, d'une bonne et d'une belle histoire.
Ouais, mais ça plaît aux enfants, c'est joli, moi j'aime bien les pop-up.
Mais oui, c'est joli,
Emmanuel. C'est pas francophone, mais j'aime bien.
Mais voilà, c'est pas un mot francophone. Faites vous-même. Faites vous-même la valeur ajoutée. Racontez des histoires.
Bon. Mais oui, mais il faut raconter, et puis les pliages, c'est bien aussi. Bref, Dominique Bressou, un coup de gueule aussi en Suisse, suite à la dernière foire du livre de Francfort.
Voilà, oui, c'est sur l'intelligence artificielle au service des choix éditoriaux. En fait, c'est en prévision de ce qui semble se préparer, ce coup de gueule. Parce qu'on a en effet parlé de ce fameux algorithme qui permet de prévoir si un livre de fiction va marcher ou pas, en se basant sur ce qu'on connaît des goûts des lecteurs et qui permettrait de ne publier finalement que ce qui se vend. Et là, ça devient pathétique.
Ah, oui.
Parce que ça signifierait que certains livres ne verront pas le jour à cause du sujet, de l'auteur ou quoi que ce soit d'autre. Et surtout que nos goûts en matière de lecture seraient à terme dictés par une machine. Alors pour le moment, c'est en allemand. Mais le jour où ça arrive en français,
ça va être compliqué.
Eh ben pour les petites librairies qui aiment bien les petites pépites à recommander à leurs lecteurs, elles ont juste une raison de plus de fermer.
Gloire à l'informatique, quoi.
Exactement.
Merci Dominique. Sophie Todescato en France, un coup de cœur.
Oui, c'est pour le catalogue d'une exposition qui s'appelle Roux, point d'exclamation, l'obsession de la rousseur. C'est une exposition qui a lieu en ce moment à Paris et qui nous permet de découvrir une œuvre assez étonnante d'un peintre du 19e qui s'appelle Jean-Jacques Henner, dont on peut dire qu'il était spécialiste, voire même fétichiste de la rousseur. Toutes les figures, tous les portraits qu'il peint, même celles du Christ, sont rousses. Alors c'est une manie, mais qui fait beaucoup d'effet à l'œil dans ce livre, parce que la couleur est vibrante, et même le roux, c'est pas vraiment une couleur, c'est une lumière, c'est une vibration, et donc le catalogue est vraiment beau à regarder. Alors c'est un livre à lire aussi, il y a des textes qui sont bien, c'est fou comme la rousseur est riche de symbolique, de Judas à Spirou, en passant par Sonia Riquel.
Et oui, Sonia Riquel, dont on parlait la semaine dernière, lors de l'hommage à Karl Lagerfeld avec sa fille Nathalie Riquel.
Exactement.
C'est parfait.
Tout
vous
est
êtes parfait.
Oh là là.
Tout est en lien. Merci beaucoup Sophie. L'obsession de la rousseur, c'est aux éditions du Seuil. Enfin, Josiane Nétourneau au Canada. Coup de gueule ou coup de cœur?
Ben, un coup de gueule. En fait, je contextualise. Nous avons en résidence à la librairie du Square Outremont, Mélicap Delmoumen. Bon, vous imaginez bien que mon coup de gueule, c'est pas ça, mais ça prend racine dans le thème de cette résidence-là qui est la censure. En fait, vous avez peut-être vu que ces derniers mois au Québec, on a beaucoup discuté des questions, surtout d'appropriation culturelle. Alors, nous, on se questionne sur l'impact de ces sujets-là dans la création, sur l'espace de liberté en création littéraire, et on refuse un peu l'implacabilité d'un certain appel à la censure. Les écrivains, les autrices n'ont pas besoin d'une grille morale pour les museler et qu'il faut discuter de ce sujet-là avant que ça aille trop
loin. Il ne faut pas censurer les auteurs, voilà, on essaye de le faire parfois. Vous avez raison. Merci beaucoup, Josiane. À suivre, la Canadienne Denise Bombardier, entourée de ses lecteurs lors d'une signature, reportage inédit, sans faux-semblant. Et puis le roman Fleuve du Suisse Jean-François Haas. Il y a dans ce livre un symbole qui ne va pas vous laisser indifférent. On vous raconte tout après un souvenir musicale orientale, signé 1, 2, 3 Soleil. Bonne journée ou bonne soirée à travers le monde avec la librairie francophone.
je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime, passionnément. Tellement je t'aime, à la folie. Tellement de rire que dans nos terres. Tellement de rire, un sorcier allié. Tellement de rire, et nous t'allier.
Faudel, dans le cadre de 1, 2, 3 Soleil autour du regretté Rachid Taha et de Khaled avec Tellement Enbrick.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et on vous emmène à Montréal lors d'une séance de signature de la fameuse Denise Bombardier, qui n'a pas la langue dans sa poche, quitte à en énerver certains. Ce qui est bien avec Denise, c'est qu'elle assume tout. Elle vient de publier ses mémoires, qui assument donc tout. Une vie sans peur et sans regret est parue chez Plon. La voici entourée de son public québécois.
Bonjour. Alors c'est pour ma mère.
Oui.
Elle s'appelle Renée.
C'est parfait.
Elle admire beaucoup votre franc-parler, votre détermination. Elle m'a téléphoné deux fois hier pour me dire de venir faire signer le livre.
C'est vrai.
Dans la journée.
Voilà.
Merci beaucoup, beaucoup.
Merci infiniment.
Je vais le lire aussi.
Bonjour Denise Bombardier.
Oui, bonjour.
Merci de nous accueillir sur le Salon de Montréal, à votre stand, en pleine signature.
Ben, je vous en prie.
Votre franc-parler a la raison, cette jeune femme.
Il faut croire.
Oui.
Je ne peux pas les contredire quand même.
Non, mais c'est vrai.
Quand les gens me font des compliments, je ne vais pas les contredire.
Alors Louise, qu'est-ce que vous aimez chez Denise Bombardier?
Sa franchise, son franc-parler, elle n'a peur de rien. Surtout son mémorable entrevue, aussi mémorable avec Pierre Elliott Trudeau, où elle lui dit « Merci Monsieur Trudeau, mais vous ne répondez pas à ma question. » Il dit « Oui, oui. » Elle dit « Non, non, vous ne répondez pas à ma question. » Ah, enfin, j'en aurais trop à dire. Il y a une fille là.
Voilà.
Merci, madame.
Merci. Merci, merci beaucoup.
Merci, Louise.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci.
Bonjour.
Je suis Janine Salvage. J'ai eu mes 82 ans hier.
C'est vrai. Oh. Ben, attendez, je vous embrasse quand même.
attendez.
Allez, venez.
Allez, la photo.
Ah, vous voulez que je sois dessus?
Allez.
Ben, ouais,
pourquoi pas.
C'est génial.
Oui, hein.
Ils sont géniaux.
Toute la journée.
82 ans, vous imaginez?
Oui, mais elle fait pas. Bonjour, monsieur. Je vais très bien.
Je suis un fan, évidemment. Même que mes amis me disent, m'appellent Denise des fois parce qu'on brunch ensemble. Puis là, je me mets à dire ce que je pense. Puis ils me disent, chère Denise, parce que j'ai pas la langue de bois nécessairement. Oui.
Bon, alors vous appelez Michel.
Oui, je m'appelle Michel.
Alors Michel, Denise Bombardier n'est pas réactionnaire pour vous. Est-ce qu'elle est réactionnaire, Denise?
Êtes-vous réactionnaire? Ben, c'est difficile, hein, de...
Mais non, je suis... Moi, je suis...
Moi, je suis conservatrice en ce sens que si tu es Québécois et que tu ne veux pas conserver la langue et la culture par des gestes, eh bien, tu n'existes plus. Moi, je ne crois pas que je suis une citoyenne du monde, que les frontières n'existent pas. Je ne suis pas un produit qu'on exporte. Je suis quelqu'un et je ne suis pas qu'un individu. Je suis quelqu'un qui appartient à une communauté culturelle plus large qu'une communauté. Je suis quelqu'un qui appartient à un peuple qui s'appelle le peuple québécois. Je crois à ça.
Comprenez-vous pourquoi qu'on l'aime? C'est facile. Facile d'aimer quelqu'un comme ça. Merci infiniment.
Voilà.
Gardez votre belle santé.
Attendez, je vous embrasse quand même.
Oui, OK. Bye, Jacques. Merci beaucoup.
Bye-bye.
Qu'est-ce que vous écrivez sur les signatures, Denise?
Ça dépend.
Vous alternez, vous avez des phrases clés. Ouais.
J'alterne parce qu'autrement, je vais m'ennuyer moi-même. Vous voyez? Il faut tout le temps que je parle.
Il y a une histoire derrière.
Il faut qu'il y ait une personne avec une histoire derrière. Voilà. Oui.
Bonjour, Denise.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est votre nom?
Michel. J'ai lu votre jackpot, mais je ne vous ai pas écouté.
Est-ce que vous jouez?
Un peu partout.
Ah, moi, j'ai fait tous les... avec Céline Dion, quand j'ai fait le tour du monde, j'ai fait tous les casinos. Partout où on allait, les machines à sous. À Macao, si jamais vous pouvez aller à Macao. Ouais. Parce que Las Vegas, ça a l'air du tiers-monde à côté de Macao, les casinos. Ah, c'est incroyable!
J'allais une fois à Las Vegas, ça m'a assez impressionné quand même.
Ah ben attendez, si vous allez à Macao, c'est dingue. Voilà.
Merci beaucoup. J'apprécie vous lire. Je ne suis pas toujours en accord, mais j'aime votre éclairage. Et puis,
je ne fais pas ça pour que tout le monde soit en accord.
Non, c'est ça.
C'est le plaisir de la vie, c'est le plaisir d'échanger et de ne pas être d'accord aussi.
Les arguments, les opinions, le côté érudit aussi. C'est,
Ah bon, mais merci beaucoup.
J'apprécie beaucoup.
Merci infiniment. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.
Oula, il y a plein d'enfants.
Oui. Là, j'ai toute une famille, si je comprends bien.
Ben, non, c'est parce que j'ai le livre déjà à la maison. Bon, je l'ai acheté à mon conjoint. Il le dévore. Puis là, il m'a demandé si je pouvais de vous faire signer un petit mot.
Parfait.
Vous la lisez, vous, Madame Denise?
Ben, après, oui, je vais la lire sûrement.
Vous aimez bien ce qu'elle dit? Ou ça vous agace parfois?
Non, je trouve que c'est une grande dame qui a parlé au nom de toutes les dames du Québec.
Bon, on va vous laisser terminer la signature. Merci, Denise Bombardier. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. On s'amuse bien avec vous.
Ben,
c'est vrai. Hein? Même si on n'est pas d'accord, comme ils disent.
Oui, mais si on ne s'amuse pas dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On attend la mort.
Oui.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Bon, je vous embrasse, Denise. Je vous laisse avec la dame. Merci
beaucoup. D'accord.
OK, parfait. Merci, Denise.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Sur ce clin d'œil au groupe Talk Talk, qui a perdu son chanteur Marc Hollis cette semaine, grand groupe des années 80, le groupe Talk Talk. L'écrivain suisse Jean-François Haas est dans la librairie francophone pour un roman Fleuve qui raconte le siècle passé, un livre ambitieux, 470 pages, dense, tassé. Jean-François, on a l'impression que vous voulez tout raconter, tous les détails, toutes les situations.
Alors, il y a deux ou trois vies, hein, dont celle de Toby en particulier. Toby se retrouve dans un monde qui est très complexe. Et puis, il y a du coup beaucoup de choses à dire sur cette complexité.
C'est une vraie épopée. En même temps, toute vie est une épopée si on la raconte dans le détail.
Absolument. Vous voyez, quand on dit les vies minuscules, hein, Pierre Michon a très bien compris. Il n'y a que des vies majuscules, en fait. Chaque homme est extraordinaire.
On va piocher ensemble dans cette vie, Jean-François. Toby vit avec sa mère et son beau-père dans la Suisse rurale. Sa mère fait plusieurs enfants, dont Lynn, née trisomique, que Toby va prendre sous son aile. Le travail dans les champs est épuisant, seuls les plus vaillants survivent, et Lynn va périr sous les yeux de sa famille. C'est le premier drame que va vivre Toby tout jeune, et c'est un drame qui va le marquer pour toujours.
Oui, parce que c'est une sorte de mise à mort. Enfin, Toby a un parâtre, hein, il ne connaît pas son vrai père. Et ce parâtre est un homme pour qui ce qui compte, c'est la rentabilité. Ouais. Et les gosses doivent travailler. Mais c'est tout à fait la réalité de ce temps-là.
C'est très triste, en tout cas, ce passage. Hein. Vraiment.
Oui.
Et le pire, c'est que les drames vont s'enchaîner dans votre livre. Au point qu'on se dit qu'une vie comme ça, racontée sur 400 pages... Ça résume la douleur du monde, mais ça résume aussi nos propres douleurs. Parce qu'on vit tous des douleurs. Toute notre vie, on va en vivre et ce n'est pas fini.
C'est ça. je crois que j'ai voulu écrire une histoire. C'est pas vrai ni faux, il y a une histoire, hein, comme dit André Schwarzbach. Je crois que une histoire, on y trouve sa vie. Quand on est gosse et qu'on entend Cendrillon, Bettelheim avait bien mis ça en évidence, on lit ses propres douleurs d'enfant le jour où on se sent mal aimé. Enfin, c'est, ça arrive à tous les gosses, hein, même les plus aimés. Donc, je crois que, voilà, j'ai essayé d'écrire une histoire, oui, où chaque homme peut essayer de trouver un peu...
Et s'y retrouver, oui. Toby va partir à la recherche de son père biologique, un long chemin vers les États-Unis. On est en 1912, et au même moment, à Cologne, il y a Isaac, un jeune révolutionnaire d'Odessa, qui est à la recherche de son enfant, lui, son fils disparu lors d'un massacre qui tua sa femme. Et tous les deux vont se rencontrer. Très vite, comme une évidence, ils font le chemin ensemble et deviennent amis intimes.
Oui, parce que je suis fasciné depuis des années par l'escalier d'Odessa dans le film d'Eisenstein. Mais là, je voulais que tout d'un coup, que ce personnage soit le père du bébé qui se trouve dans le landau sur l'escalier d'Odessa. J'avais envie, dans mon livre, de faire entrer des films, des livres, et je l'ai fait
tout au long du texte. C'est un vrai film, votre livre,
Lapsus. Oui, je crois qu'il y a pas mal de choses cinématographiques. Ouais.
Alors c'est très cinématographique, ces deux amis vont s'entraider dans le travail, Toby et Isaac. C'est la beauté de cette histoire en fait, hein, cette relation forte, fusionnelle, jusqu'au jour où malgré le fait qu'il soit aux États-Unis, Isaac, le juif, va être pourchassé par le Ku Klux Klan. Et le deuxième drame absolu pour Toby, c'est que son ami, son meilleur ami, son ami intime, va se faire tuer. Et il y a ce mot « frère » dont on parlait dans le générique tout à l'heure, qu'ils vont prononcer tous les deux, et lui, juste avant de mourir, il dira ce mot.
Oui, parce que pour moi, c'est un... On cherche quelquefois sur quel mot construire sa vie, finalement. Alors pour moi, il y a deux mots, au moins, ou trois, disons. Il y a « tu », le pronom, il y a « frère », et puis il y a écrire. Et il se trouve dans mon titre. Sauf le mot frère, mais qui lui court tout, dans tout le roman.
Pour affirmer l'humanité, en
fait. Voilà, tout à fait. Ouais. Ouais. On a essayé la liberté, ça n'a pas vraiment marché. On écrase les autres. On a essayé l'égalité, ça n'a pas vraiment marché non plus si on essayait la fraternité.
Trois libraires ont lu votre roman. Jean-François Haas, la Belgique, le Canada et la Suisse. On commence par qui?
Le Canada.
Allons-y. Josiane Letourneau, c'est à vous.
Je suis chanceuse. Écoutez, c'est un roman qui était plein de promesses dès le départ et ces promesses-là sont exprimées en phrases parfois audacieusement longues, mais elles sont tellement pleines de poésie et tellement pleines de sensibilité. Vous parliez de film tout à l'heure, c'est la même chose pour moi. J'ai vu littéralement s'incarner, s'animer l'histoire au fil des pages devant mes yeux. Bref, au-delà de la souffrance, c'est une formidable lecture.
La Suisse, ça vous va, Jean-François?
Oui, bien sûr.
Oui, vous êtes suisse quand même, hein, je vous rappelle. Dominique Bressou.
Alors avec ce roman, c'est vrai qu'on traverse l'histoire avec un grand H. On se promène d'un continent à un autre et on aurait pu s'y perdre. Mais ce qui fait qu'il est passionnant, ce livre, c'est qu'on suit toujours le même personnage qui prend la vie comme elle vient, toujours parfaitement lucide et sensible. Et si le style de l'auteur est parfois difficile à suivre avec des phrases très très longues parfois, c'est de la vraie littérature, et en plus, ça a le mérite de renouveler la façon d'aborder les événements historiques, et c'est passionnant.
Bien. Déborah Damblon pour la Belgique, concluez.
Eh bien, moi, ce que j'ai aimé dans votre livre, Monsieur Haas, c'est son ampleur au propre, comme au figuré, parce que c'est quand même un gros livre, et par là, le rapport qui nous oblige à prendre au temps. Et c'est vraiment une expérience appréciable parce que ça devient rare de prendre son temps. Et moi, ce temps, j'en ai eu besoin pour vous lire. J'en ai eu besoin pour m'imprégner de vos personnages, de toute leur voix, de vos longues phrases, effectivement, et de tout ce qui leur arrive.
Oui,
et puis, j'en ai eu besoin aussi à certains moments pour pouvoir apprivoiser la noirceur de ce monde.
C'est vrai que c'est très long, 470 pages, écrit de façon très dense, hein, s'il faut prendre son temps pour lire ce livre, Jean-François Haas. Il y a ce symbole dont je parlais tout à l'heure, on va arrêter le suspense, parce qu'il y a un symbole qui donne envie finalement de reproduire. C'est le jeune Lynn qui un jour, au bord de la rivière, écrira son nom sur l'eau. C'est ce qui va donner le titre de votre roman, Jean-François Haas. Et c'est ce que Toby va faire pour ceux qu'il aime, il écrira leur nom sur l'eau.
Oui. Parce que l'eau, c'est évidemment une richesse symbolique extraordinaire. C'est la vie, bien sûr. C'est la mort aussi. Il y a la traversée des eaux de la mort dans différentes religions, hein, dans les ces éléments initiatiques. Finalement, ce mot frère, on peut l'écrire sur la vie, pour vivre, mais on l'écrit pour traverser la mort aussi, pour dire non à la mort.
Et on écrit le prénom de nos proches sur l'eau.
Voilà.
Mort ou vivant, ça m'a donné envie de le faire, figurez-vous. Je vais le faire, je vous promets. Pas sur une rivière, mais dans la mer, tiens.
Bah, écoutez, je suis très ému.
C'est vrai, vous êtes ému, ouais.
Oui.
Ça vous émeut que je vous dise ça?
Mais oui.
Pourquoi?
Mais parce que si on écrit, c'est pour ça.
Bon, bah vous allez réussir à m'émouvoir aussi. Bon, il y a les amours de la vie de Toby, Lynn, Isaac, son demi-frère et son ami, mais aussi sa femme rencontrée aux USA, Hélène, fille de pasteur. Là encore, la fin n'est pas heureuse pour Toby, je ne raconte pas tout, mais c'est dur, c'est très dur. Comment on fait quand on perd ce qu'on aime, Jean-François?
Bah, vous l'avez dit, c'est très dur. C'est très dur et je crois que... On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. C'est jamais fini. On n'a jamais fini de perdre quelqu'un.
C'est vrai. On parcourt le siècle, hein, avec votre histoire. On assiste au racisme, à l'antisémitisme, au nazisme, à la cruauté des hommes qui vivent des époques difficiles, les crises économiques, les guerres, et puis la faim, la misère, mais aussi la solidarité. Toby et Isaac, eux, ont toujours voulu rééquilibrer les choses. Ils ont toujours lutté contre toute forme d'exclusion, chacun à sa manière, chacun à son niveau. Et ça aussi, on peut tous le faire.
Oui. Oui, dans sa vie quotidienne, je crois qu'on a beaucoup de possibilités. On se croit toujours impuissant. On croit de nouveau qu'on a une vie minuscule. Mais si on veut être quelqu'un à plein, alors on peut faire des tas de choses autour de soi. On peut s'arrêter, écouter quelqu'un, lui parler. Enfin, voilà, je veux dire, on fait des miracles au quotidien si on veut.
Merci beaucoup Jean-François Haas. Merci, vous êtes très ému, décidément vous me bouleversez vraiment Jean-François. Heureusement que c'est la fin de l'émission, je ne pourrais pas continuer. Tu écriras mon nom sur les eaux est paru aux éditions du Seuil. Une épopée bouleversante, une fresque du siècle passé, notre histoire racontée avec poésie et résilience. Merci Jean-François.
Merci.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici la chanteuse française Cléa Vincent avec Nuit sans sommeil.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Cléa Vincent avec Nuit sans sommeil, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. N'oubliez pas la première édition de la librairie francophone à la télévision à partir d'aujourd'hui sur votre chaîne de télé francophone. À la réalisation, Étienne Bertin avec Guillaume Roux à la technique, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret et Stéphanie Valois avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Teuchère en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Sylvie Julien et Jacqueline Castonguet avec Elsa Pépin au Canada. La semaine prochaine, nous serons avec Yannick Lahens depuis Port-au-Prince en Haïti pour un entretien exclusif avant son entrée au Collège de France. Atik Raimi sera aussi sur notre plateau, entre autres. Bonne semaine et bon week-end à tous.